21h passées de quelques petites secondes sur Radion, le moment est venu de retrouver votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Très bonne soirée à toutes et à tous, donc avec un nouvel invité ce soir sur les banquettes moelleuses de Wagon Livre. Ariane Schreider, bonsoir Ariane.
Bonsoir.
Merci à vous de nous consacrer du temps. Nous enregistrons cette émission au siège des éditions Héloïse d'Ormesson à Paris. Et vous venez de faire paraître dans cette maison d'édition un roman qui est votre deuxième roman et qui a pour titre « Et mon luth constellé ». On reviendra bien sûr sur ce titre. Ariane, je livre à nos auditrices et auditeurs les quelques informations que la quatrième de couverture m'a donné. Vous vivez entre Paris et le Loiret, c'est oui. Toujours le cas. Normalienne, agrégée de lettres modernes. Alors, le premier roman avait pour titre « La silencieuse ». Il a paru en 2013, récompensé notamment par le prix René Fallet et le prix Folire.
Oui.
Ariane Schreider, quels sont les autres éléments biographiques que nos auditrices et auditeurs auraient besoin de connaître ce soir pour mieux vous appréhender?
Alors, vu le sujet du roman, je crois que je vais être obligée de revenir un petit peu sur mon parcours d'études. J'ai fait une formation de lettres modernes, mais il y a un élément que j'aime bien rappeler, qui est que quand j'étais en classe de seconde, j'aimais déjà énormément lire, je voulais déjà écrire, et je me souviens d'un professeur de français qui le savait et qui m'avait dit « si tu veux écrire plus tard, ne fais pas des études de lettres ». Et je n'ai pas compris, je n'ai vraiment pas écouté ce que m'avait dit ce professeur. J'ai persévéré longtemps, puisqu'effectivement, j'ai fait des classes préparatoires qui m'ont d'ailleurs énormément apporté. J'ai intégré l'école normale supérieure, j'ai passé l'agrégation, et pire, je me suis engagée dans une thèse sur la littérature du Moyen-Âge, que j'adore, la littérature du Moyen-Âge, mais pas tellement la thèse. Et je l'ai commencée parce que c'était un petit peu la voie convenu hein, quand on est dans ces études. Et c'est vrai que durant toutes ces années d'études, je me suis détachée de mon désir d'écrire, c'est-à-dire qu'il est devenu comme une sorte de rêverie adolescente. En fait, dans ces classes-là, on a un peu tous envie d'écrire et au final, presque personne n'écrit. On finit maître de conférence ou professeur d'université si on a vraiment de la chance. Et je m'étais dit que l'écriture, finalement, ça n'était pas pour moi. Et je me suis embourbée dans cette thèse qui, dans le fond, ne me convenait pas. Et en même temps que je préparais cette thèse à la Bibliothèque nationale, je m'étais mise à écrire de tout petits textes sur un personnage extrêmement névrosé qui s'appelait X, qui était aussi un chercheur qui cherchait en bibliothèque mais qui ne trouvait jamais rien. Et je riais en écrivant ces textes. Et un jour, j'ai eu l'idée de donner ces textes à lire à quelqu'un qui écrivait aussi et qui m'a dit « mais en fait, continue ». Voilà. Et ça a été une sorte de déclic qui a réveillé ce désir d'écrire, mais de façon extrêmement violente. Il y a eu quelques hasards aussi à ce moment-là, ou quelques, c'est plus que des hasards, enfin, qui ont vraiment réveillé ce désir qui était enfoui. Et j'ai traversé une sorte de crise existentielle relativement importante et j'ai fini par brûler ma thèse qui n'était pas terminée dans ma cheminée en me disant que ça n'était pas ça que je voulais faire, c'était écrire. Voilà, donc ça, je pense que c'est l'élément biographique un peu marquant. En ce qui me concerne, j'étais obligée d'arrêter, en fait, d'enseigner la littérature et surtout de chercher en littérature pour pouvoir me remettre à écrire, ce qui était le désir initial, en fait, qui m'avait amené à faire toutes ces études.
Alors, posons peut-être le cadre et le synopsis de « Et mon luth constellé ». J'ai horreur du mot « pitch ».
Ah,
un
oui.
Certain nombre oui, de aussi. Vos consoeurs et confrères écrivains utilisent le terme « pitch ». C'est assez détestable.
Oui, alors c'est un peu mon cauchemar parce que je pense que j'écris des romans qui sont un peu anti-pitch, qui sont très difficiles à pitcher, mot encore plus laid. et qui sont même difficiles à résumer. Donc, celui-ci l'est, je pense. Alors,
comment présenter ? On a deux héroïnes fortes, deux héroïnes marquantes. Je dirais, il y en a une qui est vivante et puis il y en a une qui vient de mourir, en fait. Là, j'utilise un raccourci un peu cruel, peut-être.
Oui, oui.
Mais il y a une histoire entre ces deux femmes, puisque le roman commence en fait par une jeune femme qui se prénomme Louise, qui apprend en regardant les informations à la télévision qu'un avion de ligne russe s'est échoué. Et à bord de cet avion se trouvait une comédienne. Et cette comédienne, notre Louise, l'a connue quand elle était petite fille dans un village des Pyrénées où cette jeune femme, qui était déjà comédienne, est arrivée un peu comme une fée tombée du ciel avec une deux chevaux remplie de vêtements et de costumes de théâtre. Voilà, je présente simplement, mais c'est quelque chose de catastrophique pour cette jeune femme de découvrir que cette comédienne a trouvé la mort de manière accidentelle, surtout que cette comédienne laisse derrière elle une petite fille. Et finalement, il y a l'héritage humain de cette petite fille et il y a l'héritage intellectuel, livresque, que cette comédienne a transmis à cette jeune Louise qui va retourner donc dans son village pour enquêter et comprendre le lien qui les unissait. Voilà comment je présenterai votre roman. Est-ce que ça vous semble suffisant ou faudrait-il compléter cette présentation sommaire ?
Alors, je suis contente que ce soit vous qui le présentiez plutôt que moi, parce que moi, j'ai toujours du mal à le faire, d'autant que le roman s'écrit en plusieurs étapes, que je l'ai réécrit plusieurs fois et qu'en fait, il y a vraiment deux histoires. L'histoire que vous venez de raconter, qui est effectivement l'histoire cadre, avec cette narratrice Louise qui revient donc sur son passé et sur ce qui s'est passé 15 ans plus tôt quand elle avait 10 ans et que donc cette comédienne venait d'arriver dans le village. Cette histoire-là, donc l'histoire cadre du roman, qui est une sorte aussi d'enquête, hein, puisque la narratrice va essayer de comprendre ce qui s'est passé 15 ans plus tôt, appartient en fait à la dernière version du roman. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs strates. Le roman s'écrit, je l'ai réécrit trois fois. Et il y a l'histoire qui est au cœur du récit, qui est ce qui se passe 15 ans plus tôt et qui est donc l'histoire de la comédienne débarquant dans le village et faisant une sorte de contrat avec un libraire pour proposer un étrange marché, un marché qui est finalement en échange d'une chambre gratuite parce qu'elle n'a pas d'argent. La comédienne propose de faire des lectures publiques de textes. Et le libraire, qui est un vieux bougon, qui est veuf, qui vit terré dans sa librairie en poussiéré, qui s'ennuie finalement, va accepter ce marché et va donc loger la comédienne pendant tout un hiver. Et c'est à l'occasion de cet hiver que plusieurs amitiés vont se nouer, la comédienne avec le libraire, mais aussi la comédienne avec l'enfant, jusqu'à ce que la comédienne reparte mystérieusement à la fin de l'hiver, au début du printemps. Et c'est ce mystère qui suscite en fait la recherche de la narratrice 15 ans plus tard.
Cette comédienne, qui se prénomme Iris, aura été marquante pour la vie d'un village d'une centaine d'habitants, un village des Pyrénées, entouré par des montagnes et dominé par un ancien château cathare. Enfin,
oui.
Croit-on.
Oui, alors, petit clin d'œil sur le château cathare. En fait, ces châteaux cathares ne sont pas des châteaux cathares, c'est même tout le contraire. Ce sont des châteaux qui ont été reconstruits, en fait, par le pouvoir royal après la destruction des lieux cathares, les cathares étant, aux yeux de l'Église au Moyen-Âge, des hérétiques. J'ai parlé de mes études en classe préparatoire et je me souviens d'un livre qui m'avait marqué à l'époque, qui était un livre sur l'amour et l'Occident. Alors quand on est adolescent, un livre comme ça, qui est une sorte de synthèse magistrale, qui prétend expliquer l'amour-passion en se basant sur une histoire d'hérésie religieuse, enfin c'est très exaltant. En fait, cette théorie a été complètement contredite, mais l'idée c'était que les cathares étaient peut-être à l'origine de l'amour-passion. Donc du coup, je me suis saisie à la fois d'un lieu qui me plaisait parce que j'y étais allée, Donc le lieu, je suis très sensible au décor. C'était vrai pour mon premier roman, mais il se passait au bord d'un fleuve, de la Loire en fait. Et là, on est vraiment dans les montagnes. Donc il y avait à la fois la réalité de ce lieu qui m'enchantait, qui me donnait envie d'écrire, et il y avait ce petit clin d'œil puisqu'il s'agissait d'un roman sur les livres et sur les classiques, et surtout sur des romans qui parlent d'amour, passion. Petit clin d'œil, les cathares.
Et ce château cathare est présenté, je vous cite, comme un fauve qu'il ne faut surtout pas réveiller. En tout cas, ne vous endormez pas. Nous sommes ce soir avec Ariane Schrader pour son dernier roman « Aimons lutte constellée » disponible en librairie aux éditions Héloïse d'Ormesson. On revient dans une poignée de minutes, le temps d'une petite pause musicale.
Je te promets pas la lune, juste la mer au coin des yeux. Je te promets pas la fortune, mais juste assez pour être heureux. Je te promets pas d'avancer, mais juste regarder devant. Je te promets pas de rester, je me fous d'où me porte le vent. C'est comme ça qu'on vit, comme ça qu'on perd. On regarde les gens se taire, on n'a pas besoin de.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Ariane Schrader, avant la pause musicale, vous avez dit combien vous étiez sensible à certains lieux. Alors, vous connaissez très bien Vézelay, où vous vous êtes rendu plusieurs fois. Petit clin d'œil icono-iconé lors de cette interview.
Oui, tout à fait. Alors, j'y suis effectivement allée plusieurs fois, et bon, parce que je trouve le lieu magnifique, Et ça reste, c'est à peu près, quand je suis dans le Loiret, c'est à peu près à un peu plus d'une heure et demie, entre une heure et demie et deux heures de chez moi. Et ça reste un peu la destination quand j'ai envie de faire une escapade un peu lointaine, que j'ai envie de me ressourcer. Souvent, mon réflexe est de me dire, bon, je vais aller à Vézelay.
Donc, vous vous rendez comme ça au sommet de la colline éternelle. Voilà, vous allez voir les reliques de Sainte-Marie-Madeleine dans la crypte.
Effectivement, surtout dans la crypte, oui, absolument. Je trouve que la crypte est fabuleuse. Qui a une puissance comme ça, tellurique. Et en fait, il y a deux cryptes que j'adore. Il y a celle de Vézelay et une autre, alors pas du tout dans le même coin, mais qui est à Saint-Benoît-sur-Loire. Et je parle de Saint-Benoît-sur-Loire parce que c'est là qu'est apparu un personnage qui m'a inspiré, un personnage du roman. C'est-à-dire qu'il y avait une bistrotière en face de cette basilique de Saint-Benoît-sur-Loire qui m'a inspiré en fait le personnage de Josette. Donc c'est juste pour dire que le roman en fait s'est construit à partir d'un lieu réel que j'avais visité au pied d'un château dit cathare, d'une histoire que j'avais en tête et puis aussi curieusement d'un personnage que j'avais croisé à côté d'une autre basilique, mais c'est l'idée de la crypte qui m'y fait penser parce que c'est un lieu où j'aime bien me retirer.
Iris, donc cette jeune comédienne, arrive dans ce village un peu comme un cheveu sur la soupe. Mmh. Elle arrive avec sa deux chevaux et on la découvre, elle est belle. Il y a tout de même, c'est Jeanne qui dit au début du roman, j'avais l'intuition que ça n'apporterait rien de bon. On ne racontera pas tout parce que... Mais la jeune, la petite Louise qui va rencontrer cette jeune comédienne qui est belle, qui a du culot, qui parle anglais et qui, effectivement, va faire un pacte avec l'unique libraire du village. Alors, le libraire du village, c'est Georges, il est veuf. Il n'a pas eu de chance, en fait, quand il a ouvert cette librairie, sa femme est rapidement décédée. C'est un vieux bougon, il passe son temps à lire Montaigne, au point qu'il en oublie presque de manger. Et entre Iris et le libraire, donc il y a un pacte autour des livres. Il s'agit pour Iris non pas de faire vivre la librairie, mais de faire vivre les livres de la librairie à travers des lectures publiques qui vont avoir lieu non pas dans la librairie, mais dans l'unique bistrot du village. Ça, c'est absolument formidable aussi, cette vie dans les petits villages retirés où la vie appartient à un autre monde, à une autre époque presque.
Alors oui, il y a une sorte d'entourloupe dans l'histoire parce que faire vivre les livres et non la librairie, c'est ce qu'affirme le vieux Georges qui ne veut pas être dérangé dans cette espèce d'antre qui est devenue sa librairie. On peut à peine y circuler, c'est une librairie qui n'a que des livres d'occasion. Pour Iris, c'est un peu différent parce qu'en fait Iris arrive... Elle fait semblant d'être très sûre d'elle. En réalité, elle est dans une situation assez difficile. Elle sort d'une rupture amoureuse qui du coup la met en péril à la fois financier par rapport à sa carrière. Donc elle y va un peu au bluff. Et en plus, c'est une jeune comédienne qui n'est pas très lettrée, qui dans le fond a joué un peu de Molière, de Marivaux, ce qui est très bien, mais en fait les classiques, elle ne les connaît pas. Et quand cet accord est tissé en fait avec le libraire, c'est une sorte de double bluff. Elle dit oui, bien sûr, je lirai les livres, parce qu'il impose une condition, que les livres viennent de la librairie exclusivement. Alors elle va à un moment... déroger à la règle, mais enfin ce sera plus tard quand elle sera beaucoup plus sûre d'elle et que l'amitié se sera vraiment, vraiment nouée. Mais on peut se dire aussi que à mesure que l'amitié naît avec le vieux libraire et qu'elle sait qu'elle repartira de toute façon parce que c'est une pause, ça n'est pas destiné, elle n'est pas destinée à rester et il le sait aussi. Et ça va d'ailleurs être le grand chagrin de la petite fille. Mais dans un coin de sa tête, elle se dit aussi qu'il faut ramener ce vieux libraire à une vie sociale, affective. Donc dans le fond, pour elle, c'est pas seulement redonner vie au livre, c'est aussi redonner vie à la librairie. Et d'ailleurs, ça va passer par Jeanne aussi, qui est effectivement la rivale. En plus, physiquement, l'une est blonde, l'autre est brune, l'une arrive, l'autre est là depuis qu'elle est toute petite. Donc, elles ont à peu près le même âge. Et on le devine un petit peu, c'est dit un peu en creux. Enfin, mais finalement, c'est Jeanne qui, après le départ d'Iris, va reprendre un peu la librairie, s'associer au vieux Georges. Et donc, cette librairie va devenir un lieu vivant après le départ d'Iris, la comédienne.
Et cette librairie, c'est la librairie du chat qui dort.
Oui, c'est la librairie du chat qui dort parce que j'adore les chats, mais il n'y a pas de chat. Parce que le vieux Georges ne veut plus s'attacher à rien.
Peut-être à Montaigne, peut-être juste au texte de Montaigne.
À part au livre, c'est-à-dire qu'il estime après donc, avoir perdu sa femme et il n'a pas d'enfant, elle s'est occupée d'un neveu qui ne s'est pas tellement occupé d'elle quand elle est tombée malade et du coup il est dans une forme d'amertume et il se dit que les seuls compagnons fidèles finalement ce sont les livres et qu'en plus il n'y a pas de risque parce qu'on ne risque pas la perte. Ce que va venir aussi perturber, enfin, l'arrivée d'Iris va perturber ça, puisque lui aussi va être confronté finalement au départ d'Iris et à cette perte.
Alors Iris donc propose des lectures publiques, alors des grands classiques, hein. Elle ne lit pas la littérature contemporaine, c'est vrai que cette librairie c'est une librairie de livres d'occasion, poussiéreux,
oui,
déjà
de toute façon elle n'a pas le choix, il n'en a pas, il déteste la modernité, donc...
D'ailleurs c'est amusant parce que il parle de cette chienlit de la littérature contemporaine,
oui.
Hein,
ce libraire
vieux bougon, effectivement. Oui. Vous pensez que tout n'est pas bon à prendre dans la littérature contemporaine? Il faut dire aussi qu'il y a pléthore d'ouvrages tout de même.
Oui, alors non, justement, un des grands bonheurs quand on écrit, c'est aussi de soit de faire vivre à ces personnages des choses qu'on n'oserait jamais vivre soi-même, soit de leur faire dire des choses qu'on ne voudrait pas dire ou qu'on n'oserait pas dire, de leur faire prendre le contre-pied complet. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la littérature contemporaine. Et d'ailleurs, après avoir beaucoup lu les classiques pendant tout mon parcours scolaire, universitaire, aujourd'hui, je lis plutôt des livres contemporains parce que, écrivant, ça m'intéresse de voir ce que d'autres écrivent. Et je suis souvent très, très, très agréablement surprise. Donc non, je ne tiens pas le même discours que le vieux Georges, même si c'est vrai qu'il y a parfois une image des classiques qui peut être un peu dissuasive, surtout si on les fait lire trop tôt ou si on ne les présente pas très bien. C'est-à-dire que je pense à Madame Bovary qui, si on le lit adolescent, peut apparaître comme un summum d'ennui, alors que si on le relit plus tard avec vraiment... un peu plus de maturité, on découvre à la fois la qualité de l'écriture de Flaubert, sa finesse, parfois des traits d'humour, enfin, et on comprend beaucoup mieux de quoi il s'agit. Donc voilà, je défends malgré tout aussi les classiques et le fait que, pour moi, le critère d'un livre qui mériterait le nom de classique, c'est pas qu'il soit récent ou qu'il soit ancien, c'est surtout que c'est un livre qui reste. C'est-à-dire que finalement on ne le digère pas complètement, on ne l'oublie pas et il nous a changé et marqué à jamais.
Je m'arrête à Madame Bovary. Le bovarisme est toujours d'actualité, si ce n'est que peut-être les jeunes filles, elles ne sont pas polluées par des lectures romanesques où il n'y a que des chevaliers qui enlèvent des belles. Elles sont polluées peut-être par les séries de la télé-réalité, par les sites internet, j'allais dire l'esprit, le bovarisme 21e siècle a changé ses sources, c'est moins livresque.
Oui, tout à fait. L'idée en fait du roman, c'est à la fois de partager des textes que j'aimais en les faisant raconter, lire et raconter par une comédienne, donc dans un d'une manière incarnée. Très, très souvent même sensuel et pas du tout professoral, pas du tout didactique. Hein. C'est pour ça que c'est une comédienne qui parle de ces textes-là.
Avec un costume, elle change de robe.
Elle change de robe, donc là encore, au grand désespoir du vieux libraire. Et Iris elle-même va changer, c'est-à-dire qu'au début, elle fait un peu tout ce qu'il faut pour essayer de capter l'attention, parce qu'encore une fois, elle n'est pas forcément très à l'aise avec ses textes. Mais l'idée, effectivement, c'était de montrer que ces textes nous parlent toujours, qu'ils sont d'une certaine façon encore extrêmement contemporain. Donc effectivement, le bovarisme aujourd'hui, on pourra revenir sur la princesse de Clèves qui joue un rôle particulier dans le roman, mais si je veux aller un petit peu plus loin, d'une façon presque un peu provocatrice, elle commence par parler d'Hélène de Troie Et quand on regarde, alors Hélène de Troyes, souvent les élèves le découvrent quand même en sixième, enfin dans, donc il y a quelque chose quand même d'assez ludique hein, dans cette lecture. Mais quand on regarde par exemple l'Iliade et l'Odyssée, l'Iliade, on a des personnages de dieux comme ça, de divinités, qui sont en train d'observer les humains se battre, se dépatouiller dans des situations compliquées. C'est presque comme s'ils votaient les uns pour les autres. Enfin, ils ont chacun leur préféré. Et parfois, je me dis que ces dieux qui sont en train d'observer les humains se battre et qui misent sur certains, ça me rappelle un peu des jeux télévisés aujourd'hui ou de la télé-réalité. Et je trouve ça assez drôle. De faire cette sorte de comparaison entre des dieux qui... Voilà.
Ce qui est magique dans ce petit village des Pyrénées, une centaine d'habitants, c'est que Iris réussit à fédérer un groupe de curieux, d'amateurs, autour de ses lectures. Alors, évidemment, elle privilégie les grands classiques, donc c'est Hélène, c'est aussi Pénélope. Plus tard, ce sera la chanson de Roland, le Roland furieux, la princesse de Clèves, Madame Bovary. Et on voit ces petits villageois des Pyrénées s'enthousiasmer et réclamer et attendre avec être dans l'expectative de la prochaine séance de lecture publique. Et Ariane Schrader, Iris est un peu comme Calypso ou Circé, c'est une enchanteresse sur le public masculin. C'est peut-être en cela, d'ailleurs, que la jalousie naît sur ce personnage. C'est le pouvoir qu'elle a sur les hommes, mais à travers des lectures de grands textes de notre patrimoine littéraire.
Oui, en fait, Iris, c'est un peu une sirène. Et la sirène, dans la mythologie grecque, c'est la fille. Alors, d'ailleurs, les sirènes sont plutôt des oiseaux hein, dans la mythologie grecque. Et en tout cas, elles sont extrêmement périlleuses, puisque par leur chant, elles attirent les marins qui se noient. Et dans certaines versions, elles les mangent. Donc, c'est quelque chose d'assez terrible. Mais la sirène, c'est aussi ce qui fait rêver. Donc, une des idées dans ce roman, c'est que Iris, qui encore une fois fait tout ce qu'elle peut pour attirer quand même, pour séduire, hein, pour séduire à travers les textes, mais encore une fois à travers son corps, à travers ses robes, pour capter l'attention, Iris quelque part va se retrouver prise à son propre piège. Puisque ce jeu de séduction va aller au-delà de ce qu'elle souhaitait et va la mettre dans une position assez inconfortable. Voilà, d'où aussi l'histoire de la princesse de Clèves, qui est en fait un roman qu'elle ne voulait pas lire. Parce qu'elle le présente comme l'histoire d'une dépressive phobique. Ça, c'est la version adulte, en fait. Quand elle en parle avec le vieux libraire qui adore la princesse de Clèves, elle dit « je ne le lirai pas ». C'est l'histoire d'une dépressive phobique qui dit non à tout. Et quand elle en parle à la petite Louise qui a 10 ans, elle lui dit « tu sais, ça n'est pas une vraie princesse. Pourquoi ? Parce que c'est une princesse qui refuse le prince charmant. Quel imbécile !» Voilà. Et en fait, quand j'ai écrit ce roman, j'avais des idées, bien sûr, de textes dont je voulais parler. Alors, tous des textes d'amour-passion, aussi parce que ce sont des façons pour le personnage d'Iris de se remettre de sa propre passion amoureuse
qui a mal tourné.
Voilà. Donc elle choisit exprès, alors à une ou deux exceptions près, on pourra y revenir, elle choisit la chanson de Roland parce qu'il y a les Pyrénées, mais elle en fait quelque chose d'assez drôle parce qu'en fait elle rebondit sur un autre texte où finalement Roland, qui n'est pas amoureux dans la chanson de Roland, devient amoureux dans un autre roman. Donc elle a aussi toute une théorie. Mais enfin voilà, il y avait cette princesse de Clèves dont j'avais aussi particulièrement envie de parler. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, mais je m'étais demandé comment est-ce qu'on peut actualiser aujourd'hui la princesse de Clèves.
Ça me semble aussi une lecture peut-être ardue pour des jeunes filles de 15-16 ans, ou enfin, même des jeunes garçons, mais je pense que les filles sont peut-être plus réceptives. Enfin, on sait que le lectorat est tout de même féminin.
Alors, je ne sais pas si les jeunes filles de 15-16 ans sont réceptives aujourd'hui à la princesse de Clèves. Je pense que ça fait partie de ces romans qu'on relit plus tard. Et en tout cas, dans le roman, Iris va changer de regard sur ce texte parce que tout à coup, elle va se retrouver confrontée à une situation dans laquelle, finalement, il va lui apporter quelque chose. Le texte, en fait, va lui donner une clé sur, euh, voilà, sur une situation que je ne veux pas dévoiler parce qu'il faut quand même que le lecteur découvre le livre. Mais j'ai beaucoup buté sur cette princesse de Clèves. Je savais que je voulais qu'il ait un rôle particulièrement important dans le roman, aussi parce qu'il avait suscité toute une polémique et qu'il était devenu un peu le symbole d'une littérature qu'on pourrait presque dire morte.
Désuète, peut-être.
Désuète, inutile. Enfin, voilà. Donc, beaucoup d'autres personnes avant moi, d'autres auteurs, se sont emparés de cette princesse de Clèves. Mais, autre clin d'œil, je voulais qu'elle ait un rôle particulier à jouer. Elle est extrêmement moderne, cette princesse de Clèves, hein, parce que, juste avant la princesse de Clèves, ce sont quand même des romans héroïques complètement invraisemblables, extrêmement long, en 10 volumes, Mademoiselle de Scudéry, etc. Et tout à coup, on a un personnage...
Lastré d'Honoré d'Urfé, à ses histoires.
Voilà.
Aujourd'hui, dans leur intégralité, c'est
illisible. En revanche, c'est très lisible si c'est en extrait. Et alors là, je parle d'un autre texte qui, à l'époque, a été un best-seller total. Je parle du Roland Furieux de l'Arioste. Et alors là, je reviens à la chanson de Roland, parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai beau avoir fait une thèse, commencé une thèse et presque fini une thèse sur la littérature médiévale, je n'ai jamais lu intégralement la chanson de Roland. Mais il me restait des laisses, hein, c'est-à-dire comme des vers, et j'ai voulu les remettre dans le roman, dans leur langue d'époque, c'est-à-dire peu importe qu'on comprenne tout, alors il y a aussi la version traduite, hein, dans le roman, mais pour entendre aussi la langue, la musique de la langue, cet ancien français. Simplement, la chanson de Roland, c'est une épopée. Ça parle de guerre, ça ne parle pas d'amour. Donc,
et c'est le vieux français, d'ailleurs, ce patois des chevaliers.
Exactement.
Dit un
voilà, c'est ce que dit un personnage qui est un personnage un peu simple et qui décide, qui demande à avoir le livre après parce que pour une fois, personne ne le comprend plus que lui. Et donc, la chanson de Roland, comme à l'époque, hein, les romans rebondissent en fait d'un livre dans un autre, les sujets, les personnages reviennent, c'était aussi une source d'inspiration. Cette histoire de Roland va donner des suites, comme Perceval, par exemple, et avec le Graal, etc. Donc là, ça donne le Roland Furieux de l'Arioste, alors roman de la fin du Moyen-Âge, qui a été un best-seller absolu à l'époque. Et j'en parle parce que Italo Calvino, qui est un auteur merveilleux et un conteur justement merveilleux, Italo Calvino avait proposé une édition avec des extraits du texte de l'Arioste et d'autres passages où il racontait l'histoire. Donc il avait rendu le livre, que moi je trouve extraordinaire, le Roland Furieux, il l'a rendu accessible. Et c'était aussi une des choses que j'avais envie de faire dans ce roman.
Ce roman a pour titre « Aimons lutte constellée ». Il est disponible depuis mi-janvier en librairie aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et c'est un roman signé de Ariane Schreiner qu'on retrouve dans quelques minutes. Ariane, pour une lecture d'ailleurs, c'est vous qui allez nous offrir une lecture, peut-être pas publique, mais au micro, nous aurons l'occasion de voir comment se passent les lectures que mène cette belle et troublante comédienne Iris au milieu du café, de l'unique café de ce petit village des Pyrénées. On revient dans une poignée de minutes avec Ariane Schreiner.
Take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing naked, I'm standing naked. I'm not gonna try to decide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked, I'm standing naked. Hey, get out. I've got nothing left to give, and you give me nothing now. Read
down. 'Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up.
All you ever do.
Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending. Pretend that you don't need anyone. Can't you see that I'm naked?
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retour avec notre invitée Ariane Schrader pour son dernier roman, son deuxième roman, disponible aux éditions Héloïse d'Ormesson et qui a pour titre « Et mon luth constellé ». Ariane, le moment est venu peut-être de vous glisser à votre manière dans la peau d'une iris pour nos auditrices et auditeurs. Je vais vous demander de nous lire un passage de votre roman. Peut-être pourriez-vous le situer ?
Oui, alors d'abord je précise, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que on fait faire à ces personnages des choses qu'on n'arriverait pas très bien à faire. Donc je vais lire le texte, mais je pense que je serais beaucoup moins bonne qu'Iris racontant le texte lui-même. Il s'agit en fait de la première lecture d'Iris, vue, donc lecture qui a lieu dans un bistrot, hein, le bistrot de Josette, et c'est vu à travers le regard de la petite Louise qui a 10 ans. Et ce fut une apparition. Iris, en robe de sirène, lamée argent, ondoyant à chacun de ses pas descendant l'escalier, les cheveux déployés, jusqu'à venir se placer au milieu du cercle vide, sous le plafonnier, la robe étincelante. Baissant la tête un instant, tournant sur elle-même, comme pour nous emporter dans les plis de sa traîne. Le vieux Georges dans mon dos s'étranglait en silence. Jeanne, à ma droite, s'est raidie sur sa chaise. Mais à ma gauche, Luce a serré ma main. Je la sentais captée comme moi. Pour rien au monde, je n'aurais décroché mon regard d'Iris sirène. Qui tenait dans sa main droite un livre, je ne voyais pas lequel, et qui a relevé les yeux vers nous, disant « Tout commence avec une femme. » Sa voix était plus grave, plus suave que d'habitude. « Une femme ?» Iris avait marqué une légère pause. « Et une pomme ?» « La Bible ?» Il y eut l'amorce d'une déception dans le bistrot. Iris l'arrêta d'un doigt. Un vernis nacré se reflétait sur son ongle devenu coquillage. Elle plissa un peu les yeux. « Non, pas Ève, Hélène, la plus belle du monde. » une histoire contée, chantée peut-être, par un vieux poète aveugle il y a très longtemps, un chant d'amour et de guerre. Iris marchait, ondulait plutôt, au centre du café dont on avait poussé les tables. Sa chevelure blonde prenait des reflets d'or sous le plafonnier du bistrot. La robe palpitait comme la mer.
Merci Ariane Schrader. Difficile de se lire. Hein
Difficile.
Merci Ariane en tout cas pour cet effort et ce partage avec nos auditrices et auditeurs. Notre comédienne Iris lit essentiellement des textes issus de romans.
Oui.
La poésie est en filigrane parce qu'il y a un côté poétique dans votre roman, Ariane. J'ai relevé cette citation. Je crois que c'est Georges qui doit dire ceci à Louise. Georges, le libraire, le veuf, cet homme bougon, peiné, qui se réfugie dans les livres, dans la littérature salvatrice pour lui, dans son village un peu isolé des Pyrénées. Il dit à Iris, la poésie, ça sert à faire passer la peine.
Oui, alors déjà la poésie, je voulais qu'elle soit présente dans le texte. Alors il y a le théâtre à travers le personnage d'Iris, même s'il n'y a pas de théâtre explicitement, enfin de scène théâtrale. Il y a le roman bien sûr. Et la poésie, c'est la chose du vieux Georges. Hein, il fait des exercices d'articulation comme ça. Le matin, il déclame des vers souvent difficiles. Et la poésie, ça sert à faire passer la peine. Ça fait partie de ces phrases qui vous viennent quand on écrit, on ne sait pas vraiment d'où, on ne sait pas quelque chose de réfléchi, c'est tout à coup ça s'est imposé, donc je l'ai mis comme ça. Je pense que c'est vrai si je l'ai écrit. Pour le vieux Georges, en tout cas, c'est clair que c'est quelque chose qui lui permet de se remettre de sa douleur passée.
Autre citation, cette fois-ci c'est Iris qui s'adresse à la petite fille Louise. La comédienne dit à la petite, ce qu'il faut ma belle, c'est avoir le sens poétique. Qu'est-ce que cela veut dire Ariane Schrader, avoir le sens poétique?
Alors ça s'inscrit par rapport à l'expression avoir le sens pratique. Et je pense qu'on devrait tous avoir tout le temps le sens poétique, c'est-à-dire justement... se laisser porter par des choses que l'on n'a pas prévues, sortir un petit peu des chemins battus, chercher peut-être plutôt la beauté que ce qui serait plutôt plus pratique. C'est quelque chose qu'on a de temps en temps et j'essaie de m'en souvenir aussi souvent de privilégier en fait la poésie dans le quotidien plutôt que le côté pragmatique et pratique qui nous dirige en général.
Alors autre lecture que Iris proposera en extrait à ses petits villageois, c'est La Belle du Seigneur.
Oui, alors très beau roman, très touffu.
Il y aurait pu y avoir, pardonnez-moi, alors Ariane, je sais que vous ne pouviez pas accumuler comme ça, mais moi j'ai pensé à Aurélien et d'Aragon, qui me semble être une des plus belles histoires d'amour du XXe siècle.
Oui, c'est vrai, avec le début, au début, il la trouve laide, hein, c'est ça, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Donc ça, c'est un grand bonheur de lecture. Oui, effectivement. En fait, j'étais obligée de limiter le nombre de textes. J'aurais aimé en mettre d'autres, bien sûr. Ça aurait pu être Aurélien, Bérénice, rien que le nom de Bérénice, hein, rien que pour le prénom, j'aurais voulu le mettre. Et bien sûr, Ariane, avec ses... Ariane donc, et Solal hein, dans Belle du Seigneur, et surtout avec ses phrases, ses passages sublimes hein, sur rauque d'amour, être rauque d'amour. Enfin voilà, le genre d'expression qu'on a envie d'avoir inventé.
En tout cas, il y a, vous proposez, une bibliothèque idéale
oui.
pour tout un chacun. Quel que soit son âge, adolescent ou adulte, si on n'a pas lu Belle du Seigneur, si on veut découvrir La Princesse de Clèves, si on veut lire l'Arioste ou si on veut relire les textes fondateurs de l'Antiquité grecque et latine, eh bien, chacun peut le faire. Je dirais que c'est aussi un des sens de ce roman, c'est un encouragement à la lecture et c'est aussi, je trouve, un livre sur la perte et sur des gens marquants dans la vie. Et vous, Ariane Schrader, il y a eu des adultes Petite fille, il y a des. Bon, vous avez parlé de ce professeur de français au début de l'entretien.
Alors, il y en a eu un autre. Alors, c'est pas du côté de la perte, c'est plutôt du côté vraiment de. C'est ce que peut faire de plus beau un professeur, hein, c'est vous éveiller comme ça à quelque chose. Alors là, en l'occurrence, à la littérature. L'histoire que je raconte d'un professeur de français qui, un jour, anniversaire, nous lit le poème à l'étrangère de Saint-Jean de Perse, parce qu'il fait sa thèse dessus, ça c'est du réel. C'est-à-dire que je me souviens de ce professeur, nous lisant ce texte, en plus il lisait remarquablement bien, un texte que nous ne comprenions presque pas, mais qui m'a complètement enchantée. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre le titre « Aimons lutte constellée », qui... cette fois-ci fait référence à un poème de Gérard de Nerval, un poème extrêmement hermétique. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Donc ça, c'est juste la première strophe de ce poème. La plupart des gens qui ont lu le poème un jour à l'école s'en souviennent.
Et puis il y a cet exemple canonique de l'oxymore, le soleil noir.
Et le fameux soleil noir donc qu'on enseigne effectivement en cours de français. Mais ce luth constellé, c'est quelque chose de très mystérieux. D'abord parce que luth, souvent, on ne sait plus ce que c'est. Hein, c'est un instrument de musique. Mais la plupart des gens qui ont découvert ce poème, en fait, s'en souviennent. Et c'est ça que j'ai voulu aussi dire dans ce roman, c'est que non seulement les classiques sont encore vivants, peuvent encore nous parler, sont parfois beaucoup plus drôles que ce qu'on pourrait imaginer, tout est question aussi de présentation, mais même des textes en apparence extrêmement ardus peuvent nous parler, nous séduire, on n'a pas besoin forcément de les comprendre. Hein. Et c'est ce que dit aussi à un moment Iris, le lecteur ou la lectrice a tous les droits.
Absolument. C'est page 171 exactement. Le lecteur a tous les droits, n'est-ce pas ? Alors, il y a aussi ce paysage d'hiver qui tombe sur votre village, parce que ce village, il est enchanteur aussi à travers cette petite population. Il y a le loup aussi qui...
Oui, oui.
Qui rôde.
Ah, je suis contente qu'on parle du loup.
Alors, le loup, c'est important. En plus, il y a cette espèce, m'a-t-il semblé, de polyvalence du sens. Quand Iris voit le loup, enfin, tout le monde sait quand même, quand on dit qu'une jeune fille a vu le loup,
oui,
me semble-t-il,
oui, oui, oui.
Quelque chose d'assez coquin.
Oui, tout à fait.
Comme alors, Madame Bovary. Enfin,
je suis très contente qu'on parle du loup parce que il y a aussi une dimension de conte dans le roman. Qui est peut-être légère, mais qui participe à cet émerveillement de l'enfance. Et il y a la réalité aussi des loups. Alors en plus, je me suis quand même documentée quand j'ai écrit le roman, hein, même si ça apparaît peu. Donc toute cette guerre, pour le coup, entre les pro-loups, les anti-loups, enfin, alors maintenant, il y en a de plus en plus. Mais donc, il y a à la fois cette figure réelle du loup qui égorge les troupeaux, qui fait des massacres au grand désespoir des éleveurs. Et puis, bien sûr, il y a le loup mythique, le loup du petit chaperon rouge, le loup qui est à la fois ce dont on a peur et ce que l'on désire. Donc, cette figure aussi, du désir dans tout ce qu'il peut avoir de plus érotique, de plus sexuel. On peut interpréter comme on veut le petit chaperon rouge. En tout cas, à un moment, Iris va vouloir voir le loup et ça va déclencher aussi un certain nombre d'événements qui vont s'accumuler vers une sorte de catastrophe dont elle
et
se...
Puis, quand on a un fond culturel, bon, c'est la mort du loup.
Oui,
aussi,
la mort du loup. Alors, je me suis aussi documentée sur les lectures sonores et justement, la mort du loup, c'est lu par Gérard Philippe. C'est absolument sublime parce qu'on voit tout à coup que ça n'est plus un poème qui est lu. Il raconte une histoire. Et pour le coup, ça vaut la peine de réécouter Gérard Philippe lisant La mort du loup d'Alfred de Vigny. Ouais.
Et puis, bien sûr, la chef de Monsieur Seguin.
Et la chef de Monsieur Seguin.
Qui, elle aussi, derrière cet animal qui lutte toute la nuit,
oui,
face au loup, qui lui,
oui,
tient tête, une forme,
absolument,
de résistance, symbole d'une résistance, du courage, jusqu'au sacrifice.
Je pense qu'on est très marqué et par, alors soit des figures là, par exemple Louise par rapport à Iris, mais je pense qu'on est très marqué quand on a 10 ans, soit par quelques figures comme ça d'adultes, soit par quelques chagrins d'amour qui peuvent être terribles, soit par quelques textes, et effectivement, ou même quand on est plus jeune. Hein. Je pense que la chef de M. Seguin, ça a marqué quand même beaucoup de générations.
Je suis totalement d'accord. Alors, il y a l'amant de Lady Chatterley, il y a toute cette littérature, alors, ce qu'on appelle l'enfer dans les librairies
ou dans
les bibliothèques, alors, c'est-à-dire les textes.
Il y a l'amant de Lady Chatterley, et alors là, c'est un texte qui n'appartient pas à la librairie. Parce que c'est un texte qui est en anglais. Alors, Iris est très fière de dire qu'elle a un accent nickel parfait en anglais, parce que c'est un livre qui est un livre érotique, puissamment érotique, qui a choqué quand il est sorti parce qu'il décrivait une passion amoureuse très physique, très charnelle entre une jeune aristocrate anglaise et puis un homme des bois, un garde forestier, je crois. Et Iris va le lire comme un défi aux gens du village qui ont un peu jasé sur son compte, se sont un peu moqués, enfin bon. Et un peu comme une petite vengeance, elle va leur lire un passage de Lady Chatterley, donc en fait elle va les enflammer complètement. Et puis elle a pris ses libertés par rapport au vieux Georges parce que ça ne vient pas de la librairie. Donc elle s'est libérée aussi de cette espèce d'obligation. Donc elle s'affermit aussi en lisant ce très beau texte de Lady Chatterley.
Et puis bon, Iris les provoque aussi en leur mettant sous le nez des histoires qui, effectivement, dans l'amant de Lady Chatterley, il y a un décalage social entre les deux. Et on le retrouve également même dans le roman de Maurice. Alors, le nom de l'écrivain britannique ne me revient pas, mais c'est une histoire d'homosexualité où là, on a un jeune aristocrate britannique qui va avoir une relation avec le jardinier. Enfin, bon. En tout cas, j'avais relevé aussi page 161 et je trouve que c'est une très belle devise pour ce roman et mon lutte constellée. Mieux vaut brûler avec intensité que s'effacer.
Oui. Et alors là, c'est encore... Alors, je le pense. Et c'est encore un petit clin d'œil parce que j'ai mis un texte de chanson. Hein, donc ça reprend en fait la traduction de la chanson en anglais « Hey, hey, my, my » de Neil Young, je crois. Enfin voilà, là encore, Iris vient titiller, taquiner le vieux libraire parce que l'amitié s'est vraiment construite entre eux. Donc du coup, elle le secoue, elle le désempoussière, comme elle dit. Elle lui balance un peu de rock, il se moque d'elle. Il parle d'un poète anglais. Enfin bon, bref. Donc ils ont un petit peu leur jeu comme ça secret. Et je voulais qu'il y ait un peu de tout dans ce roman, pas seulement des classiques, mais aussi un texte de chanson. Voilà. Et puis bien sûr, l'enfer. Alors je n'en ai pas cité dans le texte, mais l'enfer, c'est comme ça qu'on appelait les rayonnages des librairies qui étaient non accessibles, je crois, aux mineurs. Enfin voilà, avec Sade et d'autres auteurs.
Georges Bataille,
donc on revient à Vézelay, n'est-ce pas? Et d'autres auteurs sulfureux.
En tout cas, je vous l'ai dit, Ariane Schrader, combien ce roman pourrait être un formidable support de lecture intégrale pour une classe de seconde générale en lycée.
Oui.
C'est très riche. Là. L'ex-enseignante qui s'est mise un petit peu en retrait a offert, me semble-t-il, à ses collègues un roman qui permet d'irradier comme ça sur tous les objets d'étude de l'enseignement du français dans une classe de seconde générale, le narratif, le didactique, l'argumentatif, le théâtral, le poétique, formidable. Une sorte d'art poétique, une approche comme ça, l'éloge de la lecture et des livres.
Alors ça, ce serait quelque chose qui me réjouirait énormément, parce que me dire que voilà, ça peut servir aussi à des lycéens pour découvrir d'une autre façon ou redécouvrir en fait des textes, oui, ça correspond à ce que je souhaitais faire déjà dans le roman en tant que tel, et j'en serais vraiment très heureuse. Je reste un peu en suspens parce qu'effectivement, j'aimerais beaucoup que ça puisse se passer.
Et ne pas oublier effectivement que la mort accidentelle de cette comédienne à l'âge de 43 ans va bouleverser Louise, qui est une jeune femme de 25 ans.
A 25 ans.
Et qui effectivement veut, je cite, sauver, glaner ce qu'Iris a été. Et je dirais qu'avec votre roman, il faut sauver et glaner ce que Ariane Schrader a écrit dans ce roman disponible aux éditions Héloïse d'Ormesson. Ariane, on est au terme de l'émission. Merci d'avoir fait le tour, autant que faire se peut, de ce roman. On a posé comme ça les grandes lignes, mais je crois qu'il faut se glisser à la fois aux côtés d'Iris, aux côtés de Louis, ces deux femmes dominantes, et puis je crois réinvestir les textes qui sont d'excellents conseils de lecture ou de relecture. En tout cas, Ariane Schrader, cette découverte de votre deuxième roman m'a ravi et je vous en remercie.
Bah, merci beaucoup à vous.
Merci Ariane Schrader. Alors, Bonne soirée à toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre. Et puis rendez-vous mercredi prochain, toujours à 21h sur Radion, radio du département de Lyon, Ariane. Et puis ma foi, quand vous repassez à Vézelay, faites-moi signe.
Oui, salut très à volontiers, Valon. Absolument.
Au revoir à toutes et à tous. Merci Ariane Schrader.
Merci encore.
Je rappelle, Et mon lutte constellée, votre dernier roman aux éditions Héloïse d'Ormesson. Au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Thank you.